L'émission On en jase, qu'on n'aime pas à peu près faire. C'est du lundi au vendredi de midi à 14h. On aime ça, notre émission, parce que c'est vrai. Ok, ouais, j'ai pas ouvert ton micro. Qu'est-ce que c'est ça?
Voyons là. Ça va aller mieux comme ça.
Et voilà, moins 16 degrés, Pascal, présentement. Oh, on est vraiment en hiver. Hein?
Ça sent, c'est un froid qui est vif. Mais c'est une belle journée pour du skidoo. Ce n'est pas le temps nécessairement, mais ça s'en vient tranquillement, pas vite, les activités extérieures.
La température va baisser en cours de semaine parce que c'est moins 12 demain, mais moins 5 mercredi, si je regarde à plus long terme, c'est moins 4 jeudi. Mais il y aura de la neige mercredi et jeudi. Là, c'est trop tôt encore pour parler des accumulations. Mais prévoyez un petit peu de neige pour le reste de la semaine. Pascal, en actualité, un dossier qui fait beaucoup jaser, c'est cette grève à Air Transat. Là, parce que là, nos amis qui veulent aller voyager, là, oh boy, boy, que c'est difficile pour eux.
Oui, c'est une situation qui stresse autant les voyageurs que les agences de voyage, que je pense l'entreprise elle-même. Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de s'offrir, je le mets en parenthèse, une grève? Selon les rumeurs, selon les petites informations qu'on a ici et là, Mel Guillemette aussi, qui est passé de voyage à Aquaterra dans l'émission du matin avec vous autres, les gars, le disait la semaine passée. C'est un casse-tête, mais ça a beaucoup plus d'impact qu'on pense parce que Air Transat, c'est difficile au niveau de la compagnie aérienne d'entrer dans leurs chiffres depuis quelques années maintenant. Et là, ça se dessine pour vrai. Les agences de voyage vont avoir à jongler avec appels de clients, avec report de voyage, essayer de trouver une solution, le stress de ces gens-là aussi, parce qu'il y en a qui sont capables de vivre avec le stress, de dire « on verra la journée même ». Puis normalement, c'est ce qui est le meilleur, parce que quand tu es obligé d'annuler la journée même, ben là, tu as assurance voyage et tout ça qui entre en ligne de compte. Mais ça va être assez rock'n'roll dès ce matin, en fait, de bonne heure. Là. C'est rock'n'roll parce que préavis de grève, c'est pas drôle au niveau de l'entreprise. On cherche comment on va réussir à s'en sortir avant que ça impacte tous les voyages du temps des fêtes. Et il y en a un qui a fait surface dans tout ça, c'est Pierre-Carl Pelado.
Le médiateur!
Il se propose comme médiateur pour la possible grève d'Air Transat. Pierre-Carl Pelado, ce qu'il souhaite, c'est que finalement, ça se résorbe. Je vous rappelle que c'est le président et le chef de la direction de Québecor. Et on a déploré cette situation-là, particulièrement à l'approche des fêtes. Mm-hmm. Puis il veut éviter la catastrophe, lui, Pierre-Carl Pelado.
Oui, c'est ça. Bien, il faut dire que 10 % des parts dans Air Transat. Oui. Il était en entrevue à Mario Dumont ce matin. On l'écoute. Lui, il ne pense pas qu'Air Transat peut se sortir d'une grève durant le temps des fêtes.
Oui. Je ne rentrerai pas dans la mécanique là, des finances de l'entreprise, là, mais il y a des flux monétaires qui rentrent. Si on n'est pas en mesure de pouvoir les obtenir, parce que ce ne sont pas que les pilotes là, qui vont être en grève, il y a également aussi les autres employés qui vont devoir également aussi continuer à travailler. Donc, tout ça, effectivement, je dirais
ça que... Ça veut dire qu'on va payer les autres employés à rien faire. Là. Donc, les revenus vont arrêter de rentrer, mais il faut sortir les payes des autres employés quand même.
Que vous avez eu l'occasion donc, de dépeindre un petit peu la situation financière et les conséquences que la grève d'Air Canada a causé à l'entreprise. Ça a été 335 ou autour de 350 millions de pertes d'exploitation.
Sauf eux, ils ont des milliards en banque.
Exactement. Ils sont capables de le prendre. Air Transat n'est pas en mesure de pouvoir faire ça. C'est clair, net et précis. Non?
Donc, une grève qui se prolonge, bien c'est de l'argent qui sort des coffres, zéro qui rentre.
C'est ça.
Et là, bien, dans le cas d'Air Canada, on le voyait, c'était 350 millions environ. Mais avec des milliards dans le compte de banque, tu dis « bon ». Je passe au travers, puis je recommence mes activités, mais Air Transat, si ça fait ça, ben la compagnie va fermer. Là.
Exact. Puis en plus, le temps des fêtes, c'est là où souvent on renfloue les coffres.
Ben
c'est la grosse période de l'année. Puis Pierre-Carl Pelado, c'est pas lui à titre de monsieur, là, c'est qui est actionnaire. Il est actionnaire par l'entremise de la société d'investissement qui s'appelle la Financière d'Outremont, qui est sa société d'investissement. C'est pour ça là, qu'il dit qu'il veut se prononcer. Donc, on estime là, que si on gère pas ça d'une autre manière, ce conflit-là d'employeur envers employé, c'est peut-être la fin pour l'entreprise. Qu'est-ce qui vous est proposé, en fait, si jamais vous voulez un peu un service malgré une possible grève? Bien, si vous êtes à l'étranger, vous allez compléter votre voyage assurément, puis à un moment donné, il va falloir consulter avec votre agence de voyage ou encore d'autres transporteurs les possibilités qui s'offrent à vous. Vaut pas la peine de s'acheter un billet avec une autre entreprise sans avoir parlé à ceux qui gèrent votre voyage. Ça se peut que vous fassiez couper l'herbe sous le pied à partir de ce moment-là. Sinon, pour tous les clients, vous allez devoir être patient Les lignes téléphoniques sont pleines en raison du volume d'appels, mais c'est assurément le transporteur qui va pouvoir vous aider. Mais comment? C'est ça qu'on ne sait pas. Puis les indemnisations pour les voyageurs qui sont en Europe, puis le voyage de retour ou encore le voyage serait compromis par la grève, vous allez avoir le droit à une compensation pouvant aller jusqu'à 1 000 par passager, en plus des remboursements prévus.
Donc, c'est dossier à suivre. On va souhaiter un règlement. C'est 59 % d'augmentation salariale que l'organisation, c'est-à-dire Air Transat, a laissé transparaître dans les médias en disant qu'on a offert ça aux pilotes sur 4 ans. Donc, à voir comment qu'on va réussir là, justement à se débrouiller là, avec tout cela.
Il y a un petit quelque chose que certaines personnes voulaient avoir un retour et des nouvelles. C'est pour les élections municipales ici à Québec. Ça a coûté moins cher que prévu pour l'assermentation des élus à Québec. Là, tout le monde capotait.
Bonne nouvelle.
L'assermentation au Château-Frontenac, franchement, on a-tu vraiment le budget pour ça? Ça devait coûter 47 600. Ça a coûté 38 000 $ la cérémonie du 9 novembre dernier pour l'assermentation aux municipales. Et là, on sait que la facture totale, c'est à la toute fin là, qu'on a été capable d'établir que finalement, ça s'est chiffré à la baisse. Plus de la moitié des coûts qui ont été économisés vient du fait qu'il y a eu moins de services techniques qui ont été nécessaires ce jour-là. C'est pas mal pour ça que la facture est moindre.
Tant mieux. J'espère que pour les années futures, on va continuer à diminuer cette facture-là et peut-être le faire dans des endroits un petit peu moins glamour que le Château-Frontenac.
Peut-être, oui. Bernard Drainville fait l'actualité aujourd'hui. On s'amusait en fin de semaine à se dire, oui, Bernard Drainville avec son nouveau ministère, est-ce le ministère qui fait parler ou le fait que ce soit Bernard Drainville qui l'ait entre les mains. Mais il y a des projets d'entreprise. On veut raccourcir les échéanciers des autorisations. Si vous dites, voyons, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette histoire-là? Bien, il est ministre de l'Environnement maintenant et il a présenté aujourd'hui une conférence de presse. Dans cette conférence de presse-là, il y a un projet de règlement en vue pour raccourcir les échéanciers sur l'autorisation des projets industriels, agricoles, commerciaux. On veut aller plus vite, on veut que ce soit plus concis. Un peu comment je peux le résumer. On ne peut pas garantir que la cible va être respectée. Cible de 9 mois initialement, mais c'est ce qu'on vise. Donc, le syndicat des professionnels du gouvernement craint quand même que l'autorisation environnementale soit bâclée dans cette façon de procéder-là. Et il va s'écouler 18 mois entre l'étape d'analyse de la recevabilité de l'étude d'impact du promoteur et la recommandation formulée au ministre.
Va y aller de façon plus ciblée. Oui. C'est ce que j'ai vu en écoutant une partie de sa conférence de presse ce matin. Par contre, Pascal, là, c'est fou. Là. S'il y avait à peu près 42 étapes pour arriver à un oui ou un non, ben là, on l'a réduit à peu près de moitié, mais il en reste quand même 21.
Oui.
C'est long, anti-pêcher, faire quelque chose. La différence que je comprenais, c'est qu'on va vraiment faire des études d'impact maintenant plus ciblé que des études d'impact générales, qui faisaient en sorte qu'après ça, on revenait avec une question en disant « Ouais, peux-tu me cibler plus ça? » Et là, ça faisait en sorte que ça s'étirait. Là.
On va mieux travailler, finalement, les projets en amont. Puis c'est comme ça qu'il a décrit, Bernard Drainville, ce matin, la technique zigzag. Il ne veut plus que ça soit du zigzag. Hein? On va à gauche, on va à droite, on va à... Non, on va aller tout droit. Puis ça va être des évaluations environnementales deux fois plus rapides, mais sans compromis sur la rigueur. C'est ce qu'il souhaite et ou propose à suivre si... ça va pouvoir se concrétiser.
On verra, parce que souvent, plus rapide, c'est moins rigoureux.
Oui.
Veux pas, ça vient ensemble.
Oui. Mauvaise méthode de travail qui a causé la mort d'un déneigeur. C'est dans l'est du Québec. On en parle parce qu'on est à l'aube des grandes opérations déneigement. Mort d'un déneigeur de remorque. Il faut savoir que l'accident est arrivé le 28 mars dernier. Et c'est un travailleur qui s'affairait à déneiger le toit d'une remorque. Elle était immobilisée sur un stationnement dans la cour d'une entreprise dans le Bas-Saint-Laurent. Mais pour déneiger la remorque, il y avait une échelle aérienne. Puis elle était fixée dans la boîte d'une camionnette. Puis malheureusement, une fois le déneigement de la remorque qui était terminé, est remonté sur l'échelle, puis le conducteur de la camionnette a déplacé le véhicule. Alors, le travailleur, toujours sur l'échelle, il a perdu pied, il a chuté d'environ 4 mètres. Tu sais, une niaiserie là, qui, finalement, coûte la vie de quelqu'un puis d'un travailleur, comme quoi il faut toujours tout surveiller. Puis on rappelle aussi, à l'aube de ces déneigements-là, l'importance, justement, de faire, malgré tout, le déneigement des dessus de camions et de ne pas prendre ça à la légère parce que, sur le pont, entre autres, de Québec, nombreux sont les automobiles à recevoir des plaques de glace et tout ça.
Excellent. Une petite dernière?
Oui, puis non la moindre. C'est dans le soleil aujourd'hui. C'est de la justice des faits divers. Et le titre est « Il espionnait sa conjointe et sa belle-sœur dans la douche ».
C'est épouvantable, cette histoire.
Pas la première fois qu'on a une nouvelle comme ça. Et toujours aussi percutant. Là, on est à Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie. C'est un homme de 25 ans. Il a admis avoir filmé en cachette à plusieurs reprises deux femmes. Il a plaidé coupable à des accusations de voyeurisme et d'entrave à la justice. Ça a été la semaine dernière où ça s'est fait au palais de justice de Trois-Rivières. On remonte au mois d'octobre 2024.
Ça doit être deux femmes qu'il ne connaissait pas, là.
Ben non, il les connaissait, c'est ça le pire. Ah. Une des deux femmes, c'est sa blonde. Puis ouais. L'autre, ben, c'était sa belle-sœur. Donc, c'est du monde près de lui. Ça, c'est quand tu te dis t'as confiance
ben
envers
oui.
qui est dans ta vie et tout ça. C'est un résumé de fait à glace et le sang. Pour des raisons de vulnérabilité, cette fois-ci. Mais en décembre 2024, sa conjointe et sa belle-sœur habitent au même endroit, puis ils soupçonnent l'individu de tromper sa blonde. Mm-hmm. Puis la femme a fouillé dans le téléphone de l'accusé et elle est tombée sur 15 photos en rafale de sa propre sœur nue qui sort de la douche dans la salle de bain de la résidence et tout ça.
Hey, tu dois-tu t'en poser des questions pour te dire, voyons donc, quand même, c'est l'homme que j'aime, qu'est-ce qui se passe?
Puis sur le coup, elle aurait supprimé les photos de l'appareil puis même les photos de la corbeille de l'appareil. Mm-hmm. L'accusé a été réveillé puis a été invité à quitter la résidence par sa conjointe et la mère de celle-ci. On s'entend, c'est comme ça que c'est écrit dans le journal Le Soleil. Il est reparti avec ses effets personnels et tout ça, mais plus tard, les plaignantes, ben, une des plaignantes a mis la main sur une micro carte SD qui était dans la table de chevet puis qui était utilisée par l'accusé. Ça rappelle plein d'histoires, tu sais, entre autres celle, tu sais, quand tu trouves du matériel informatique comme ça, celle d'un pédophile qui avait vendu un manteau sur Marketplace, puis la personne qui l'avait acheté avait dit, voyons que c'est ça, la clé USB dans le manteau, l'avait branché.
Moi, ça me fait toujours penser à l'affaire Pellico aussi en France.
Oui, aussi. Oui.
Où c'est sa propre fille qui a découvert justement au départ des photos d'elle et de sa belle-sœur. Mm-hmm. Puis là, quand on a creusé, ben là, on a trouvé les vidéos des viols. Là, donc,
épouvantable.
Épouvantable, certainement. Donc, ça me fait toujours penser à ceci. On va changer les idées un peu avec quelque chose de plus fun, c'est-à-dire le Canadien de Montréal.
Ce sera Suzuki en déplacement. Suzuki a des options. S'approche, la passe, reçue, devant, dédié, et le but! Cole Caulfield! Et encore une fois, c'est l'avantage numérique.
Cole Caulfield a marqué face aux Leafs de Toronto samedi. Il a fait une passe hier dans le match, si bien qu'il est à 11 matchs de suite avec au moins un point. Pour Cole Caulfield, c'est une excellente saison. 16 buts, 15 passes, 31 points. Son plus grand nombre de points en carrière, c'est 70. C'est l'an passant, 82 matchs. Donc, il a une meilleure moyenne jusqu'à présent. Le Canadien a battu les Leafs en tir de barrage 2-1 samedi. A perdu hier 4-3 contre les Blues de Saint-Louis. Donc, là, au classement, ils sont toujours 3e de la division Atlantique à 33 points. Mais tout le monde est dans le même nombre de points. Affronte le Lightning de Tampa Bay mardi qui trône au premier rang de la division, mais tu vois, 34 points. Donc, ça va être très, très, très serré. Pascal, je pense que c'est le temps de gâter nos auditeurs. On vient de parler hockey. Hockey, ça fit avec... c'est le temps des fêtes. Ça fit avec bouffe. Ça fit avec Fromagerie Victoria, ça.
Oh oui, c'est parce que c'est pas juste des poutines, la Fromagerie Victoria. C'est aussi une sélection de repas maison qui sont prêts à apporter. Ça, c'est assez parfait pour les soirs pressés, les soirs de semaine.
Oui.
Encore là, quand tu vas souper chez quelqu'un, un cadeau d'hôtesse avec un repas préparé pour cette personne-là qui va peut-être avoir à manger le lendemain après le gros ménage, mais ça comble les envies de comfort food aussi, la Fromagerie Victoria. Cette semaine, on veut connaître les ingrédients qui donnent du kick à vos repas, un petit plus, parce qu'on a un panier cadeau rempli de plein de produits maison de la Fromagerie Victoria à vous offrir. C'est d'une valeur de 150 $ et ça, on va le faire chaque jour. Ce panier-là comprend une lasagne, un pâté chinois, un pâté au saumon, un pâté à la viande, un pâté mexicain, une tarte au sucre et un kilo de fromage en grains. Tout ce que vous avez à faire, c'est de texter ce que vous mettez dans votre pâté à la viande pour donner un petit kick quand vous le préparez à la maison. Je vous rappelle, à gagner, panier cadeau de produits maison d'une valeur de 150 $ puis Fromagerie Victoria qui est toujours à vos côtés si vous avez besoin de quoi que ce soit, dans le frigo de préparer, dans le congelé ou encore en frais, en succursale ou à la commande à l'auto.
Donc là, j'ai juste à texter au 418-971-1021. Ouais. On texte quoi?
C'est ça, c'est ce que tu mets dans ton pâté à viande pour donner un petit kick.
Oui. Ce que je mets dans mon pâté à viande, moi, c'est Val qui est fait, pâté à viande, il faudrait que je lui demande. Mais bref, textez-nous au 418-971-1021. On veut des cuisiniers ou des cuisinières du temps des fêtes. On veut les récompenser. Hein, pour que si jamais ils sont pressés, là, ils vont pouvoir faire oui. Parfait, good. On fait ça. Donc, allez-y, textez en grand nombre, 418-971-1021. Pascal, t'es-tu comme moi? Est-ce que tu te poses la question depuis le début de la chicane entre les médecins et le gouvernement? C'est qui a raison?
De moins en moins.
Ouais, explique-moi donc ça.
De plus en plus, je comprends par les témoignages des médecins qui nous contactent, des pharmaciens et pharmaciennes, des préposés, des tous ceux qui finalement subissent aussi les dommages collatéraux de cette grève-là, que ça a été bâclé, que ça a été mal ficelé, peut-être pour sortir ça avant une possible campagne électorale. Est-ce la faute à Dubé? Je sais pas. Est-ce la faute à Legault? Je sais pas. Mais chose certaine, je commence à plus en plus comprendre que derrière ces chiffres-là et cette façon de faire-là, il y a des impacts très dommageables.
Exactement. Il y a Francis Veille, un chroniqueur au journal de La Presse. J'ai lu son article samedi. J'ai tellement été étonné de ses conclusions. Je lui ai demandé qu'il nous parle. Il n'était pas disponible durant l'émission. Donc, j'ai fait une entrevue avec lui avant l'émission. Je vais vous en présenter des extraits. Lui, dans le fond, c'est justement ce qu'il a fait. Il a dit « Moi, je veux savoir la vérité ». Fait qu'il a trouvé 4 médecins. Il va vous expliquer dans le premier extrait. C'est des médecins qui proviennent de où et surtout, c'est quoi leur charge de travail. Puis ce qu'il a fait, c'est que les médecins lui ont expliqué comment le salaire était calculé, fichier Excel, talons de paye, tout le kit. Il a étudié la loi 2 avec des juristes. Il a fait le calcul pour les médecins avec la loi 2 et il en est arrivé à une conclusion. Un travail de moine exceptionnel. On le remercie pour le temps qu'il nous a accordé
mais
et puis pour le travail qu'il a fait.
Que ce soit lui qui fasse ça et pas le gouvernement.
Oui, exactement. C'est parce qu'il est parti du principe où lui, il disait, ben voyons donc, Rime, le gouvernement ne peut pas faire quelque chose qui va faire diminuer les salaires autant des médecins. Donc, c'est ce qu'il écrivait comme chronique. Et il y a des médecins qui lui ont dit, ah ouais, check bien ça, je vais t'en montrer la preuve, mon Francis. On va régler ça. Premier extrait, il nous parle justement qui sont les médecins avec qui il a fait l'étude.
Tout à fait. Les GMF, dont eux travaillent, ils ont autour de 1500, quelqu'un en a une qui a autour de 1200 patients, une autre médecin, ce n'est que des femmes dans les exemples, 1850 patients font 17 axes par jour. Donc, 18 visites de patients. Fait que c'est à peu près la moyenne au Québec, ce genre de choses, pour les médecins de famille.
4 médecins dans 4 régions différentes, des femmes qui travaillent en GMF, puis qu'ils ont le nombre de patients requis. Tu sais, c'est pas des médecins que le gouvernement traiterait de paresseux, puis c'est pas des médecins non plus qui ont 3000 patients puis qui travaillent 80 heures par semaine.
Dans moyenne.
Deux médecins qui font leur job, qui sont dans moyenne. Ouais. Qui répondent aux besoins de la population, puis qui sont des bons médecins, justement, pour leurs patients. Là, ça y est, il est arrivé, puis il a dit, bon, ben, vu que j'ai pris ces médecins-là, des médecins, entre guillemots, normales, des médecins qui travaillent pour l'État et qui font leur travail, il se dit, bon, ben, je vais faire le calcul des salaires. Selon toi, les médecins, ils en perdent ou ils en gagnent?
Perdent.
Ouais, ils en perdent. Écoute bien ça.
Exactement. Donc, à partir du moment où ils m'ont fourni, les médecins m'ont fourni les renseignements qui me permettent de déterminer la rémunération, donc la rémunération qu'elles ont actuellement et donc le volume de patients qu'elles ont aussi, le volume d'actes pour estimer l'impact avec la loi 2, moi, j'ai recommuniqué avec le ministère pour m'assurer que tout était bien conforme, qu'il n'y avait pas d'erreur, qu'on n'oubliait rien, là. Et c'est là que je suis arrivé à des estimations de perte de revenus de la part des médecins de 23% si jamais ils atteignent les cibles, là, ou même 35% s'ils font la même pratique, si c'est statu quo dans leur cas. Fait que...
23% de perte. Et ça, c'est s'ils atteignent les cibles. Donc, les 4 médecins qu'il avait avec lui pour l'étude gagnaient en moyenne 305 600 $. Alors, s'ils atteignent les cibles, ils vont passer à 233 000 400 $ et s'ils n'atteignent pas les cibles, ils vont passer à 197 300 $. Tu sais, je peux bien croire qu'ils sont des privilégiés de la société avec leur salaire. Mais il faut dire qu'ils ont fait des études puis ils le méritent. Là.
Honnêtement, ils ont étudié pour
exactement,
puis ils prouvent qu'ils sont capables de les soigner. Là.
Mais ça n'a aucun bon sens qu'un médecin qui gagne 305 000 passe à 197 000 pour des objectifs que le gouvernement va mettre, mais pas juste à lui. À l'ensemble des médecins. Fait que ça veut dire que s'il y a 2-3 collègues qui ne font pas leur job, ben lui, il est pénalisé. Ça fait pas de sens pour moi.
Et puis, tu te rappelles-toi tout ce que je t'ai lu comme témoignage de médecin? J'en avais récolté
ben
des dizaines
oui.
et des dizaines. Nous, on n'était pas capables d'aller faire l'exercice de chiffrage comme ça. Il faut un journaliste d'enquête comme celui qui l'a fait du côté de la
comme
presse.
Comme Francis Veil de la presse.
Mais très honnêtement, c'est ça qui ressortait beaucoup. Puis, il y avait du questionnement de la part des auditeurs de dire, OK, attendez, là, mais s'ils en perdent autant, on commence à comprendre, malgré que ce soit des sommes élevées. Il y a des gens qui vont perdre leur maison, il y a des gens qui vont perdre la clinique parce qu'ils sont considérés comme semi-travailleurs autonomes. Mais en baissant leur salaire, c'est en baissant les revenus aussi que la clinique fait. Donc, le bail, sont-ils capables? L'équipement, sont-ils capables?
Sur le 305 000, normalement, il y en a à peu près 40 % qui vont être qui va retourner dans leur clinique parce qu'il faut qu'ils payent du personnel, loyer, les équipements, etc. Fait qu'il leur reste 60 % autrement dit, mais là, ce qui fait en sorte que là, le 40 % de 190 000 va devenir encore plus important. Donc, ça fait en sorte que vraiment, ça les met en difficulté.
Avec cet effet entonnoir-là que tu viens de décrire, on enlève les coûts pour faire rouler la clinique, il reste un pourcentage. Ouais. Pour beaucoup, ça fait en sorte qui paie pour travailler.
Oui, exactement. Ça n'a aucun sens. Et là, bien évidemment, c'est l'effet domino. Ceci arrive, les médecins ont fait leurs calculs. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'il se produit?
Tout à fait. Il y en a une qui me dit qu'il va perdre là, prochainement deux médecins là, qui vont partir à la retraite, juste que c'est un drame dans leur corps. Ils passent de 16 à 14 médecins. Fait que ces deux médecins-là, vous comprendrez que dans la région c'est, ou dans ce GMF-là, deux médecins, bien, si chacun a 1500, 1600 patients, bien, c'est 3200 patients que les 14 autres médecins doivent se répartir. Dans un autre cas, là, en Mauricie, j'en ai un autre qui perd un autre deux départs. Il y a un autre deux départs, trois avec quelqu'un qui avait déjà prévu partir. Mais donc, encore une fois, sur 22, trois départs, ça veut dire que ces patients-là vont devoir se trouver d'autres médecins, puis les médecins ils vont avoir une charge plus élevée de travail. Fait que, bref, ça crée des impacts réels dans le milieu. C'est pas que du bluff.
Et là, c'est une roue qui tourne dans le mauvais sens parce que plus il y a de médecins qui partent, plus il y a de clients orphelins.
Ouais.
Plus il y a de patients orphelins, plus les médecins, il faut qu'ils en fassent plus. S'ils ne sont pas capables d'en faire plus ou ne sont pas capables d'avoir d'autres médecins, ils n'atteindront pas les cibles de performance. Donc, ils ne tomberont pas dans le 23 %, ils vont tomber dans le 35 % de diminution de salaire. Francis me disait que les médecins étaient prêts à accepter un statu quo au niveau salarial, voire même une diminution de salaire entre 5 à 10 %. C'est pourquoi, justement, on demande au gouvernement de se rasseoir à la table. Sais-tu quoi, ça presse... Le gouvernement veut faire trop vite dans le dossier. Mm-hmm. Normalement, cette nouvelle façon de calculer les salaires sera au 1er janvier. Faut que François Legault sorte cette semaine, dans la dernière semaine à l'Assemblée nationale. Ouais, et dise, hey, savez-vous quoi? On continue à négocier avec les médecins, puis on amène ça au 1er avril.
Mais les médecins veulent plus négocier, on veut tellement dire de choses en même temps. Les médecins veulent plus négocier. Ils sont tannés. Ils trouvent effectivement que ça aide en rien à ce qui se passe actuellement, mais t'auras pas le choix de mettre un frein à tout cela parce que, honnêtement, les cliniques ferment. Là. On a parlé de la clinique ici, en gynécologie, en suivi de grossesse, qui va fermer en mars et qui déjà fait en sorte de laisser des centaines de patientes sans suivi pour leur grossesse. Et ça, ce n'est que le début. J'ai entendu quelque chose en Chaudière-Appalaches aussi. Ce que tu dis, là, c'est pas aujourd'hui ni demain qu'il faut que François Legault arrête ça. C'était hier.
En plein ça. Alors, merci à Francis Veille, qui est chroniqueur pour le journal La Presse, de nous avoir dévoilé ces chiffres. Et oui, la détresse est réelle chez les médecins. Et oui, les baisses de salaire importantes sont également réelles. On en a la preuve depuis ce week-end. Pascal, on se fait quelque chose de le fun après la pause. Stéphane Turcot, journaliste de sport pour TVA, va venir s'asseoir avec nous. Imagine-toi donc, ça a fait 30 ans en fin de semaine que Patrick Roy a été échangé du Canadien de Montréal à l'Avalanche du Colorado. Un moment marquant dans l'histoire du hockey au Québec. On va faire justement le tour de cette transaction, cette très mauvaise transaction pour le Canadien de Montréal après cette courte pause à l'émission. On en jase! On en jase.